cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe, le 11 mai de l'an 2001 à Saint-Jodard.
Nous avions vu en critique les transcendentaux la dernière fois. Il y a quelques questions sur les transcendentaux. Et je vous disais, c'est une question critique qui est très intéressante parce que, en définitive, c'est par les transcendentaux qu'on va voir comment l'intelligence va se comporter pour réaliser les diverses parties de la philosophie, l'anthropologie et la philosophie spéculative. Et dans la philosophie spéculative, les trois degrés. Aristote a dit ça, mais il faut comprendre qu'on ne répète pas Aristote en le disant. Parce que on découvre que ça correspond à quelque chose de réel. Aristote nous conduit à découvrir ça nous-mêmes. Et tant qu'on n'a pas découvert ça, on répète. Donc, c'est pas de la philosophie. Répéter, c'est très bien quand on peut faire autrement. Pour passer les examens, c'est souvent ce qu'on doit faire. Parce que si vous ne répétez pas, on dit, vous n'avez pas compris. Si vous répétez, très bien. C'est la différence de travailler pour des examens et de travailler pour chercher la vérité. Ce qui ne veut pas dire que les examens, ce n'est pas la vérité, mais c'est voie vers la vérité. Ce n'est pas encore la vérité. Alors, comment comprendre que le concept est singulier alors qu'il est un mode universel ? Concept est universel, il n'est pas un mode universel, il est universel. Pourquoi ? Parce que il est le fruit d'une abstraction. Quand vous passez de papa à homme, je prends toujours le petit gosse, nous avons tous fait ça, mais nous n'avons plus conscience. Alors, je vous remets devant une réalité. Ne cherchez pas à quel moment vous avez dit ça. Pas la peine. Mais vous l'avez dit. Vous n'avez pas été, quand vous étiez gosse, dire tout de suite, « Papa, c'est un homme. » Vous avez mis longtemps avant de dire ça. Donc, l'intelligence met longtemps avant de s'éveiller. Quand vous avez dit papa, c'était tout simplement votre intelligence, du moins votre intelligence sensible. Donc, le point de vue du jugement commun et d'un habitus très pratique. Et puis l'intelligence s'est éveillée. À quel moment vous avez dit ceci est ? Vous savez pas. Oui, vous savez qu'à un moment, vous avez dit ceci est, et ça a pris beaucoup d'importance dans votre vie. Parce que vous avez compris qu'à ce moment-là, il peut y avoir toute une recherche dans la lumière de ce qui est. Ce qui est en mouvement. Ce qui est vivant. Ce qui est intelligible. Ce qui est me permet de poser l'existence de Dieu. Ce qui est me permet le jugement de sagesse. Tous ces paliers. Dès que votre intelligence connaît, elle forme un concept. Et ce concept est universel, l'abstraction universelle. Puisque l'universel n'existe pas sans le concept. C'est le concept qui est universel, qui a un être intentionnel. Et pas un être, il a un être singulier, mais intentionnel. Il n'existe que dans l'esprit. Il n'existe pas en dehors de l'esprit. Il existe dans votre connaissance. Et donc, puisqu'il existe dans votre connaissance, il a les caractères mêmes de votre connaissance au point de vue de la signification. Le concept signifie quelque chose. Et il signifie une réalité qui est ou singulière ou un principe, une loi qui est universelle. La signification regarde le point de vue d'une connaissance universelle. C'est-à-dire une connaissance qui dépasse le singulier et qui regarde ce qui est commun à travers tous ces singuliers qui ont la même nature, la même intelligibilité, la même quiddité. Donc, le concept est singulier dans mon esprit, c'est moi qui possède ce concept. C'est moi qui ai formé ce concept. Mais la signification du concept est universelle. Et c'est en ce sens qu'on dit que l'universel est ce pouvoir universel parce qu'il signifie toute une quantité d'individus singuliers qui ont quelque chose de commun, le genre, la différence spécifique, l'espèce, le propre, l'accident. Vous voyez que cet universel générique, cet universel univoque, je veux dire, est ou générique ou spécifique. Et ça, vous ne l'inventez pas. Vous le découvrez en vous. C'est votre vie intellectuelle. Et c'est commun à tout homme. Alors vous pourriez essayer de voir si, dans des langues différentes, comment on retrouve ces attributions. Comment dans le chinois, on retrouve ça. Le concept générique. On le retrouve sûrement. Et comment il s'appelle? On essaie de saisir quelque chose de commun. Alors, vous voyez, le concept est singulier. C'est sûr qu'il est singulier. Il existe dans mon esprit. Alors qu'il a un mode universel. Mais c'est justement, il existe une existence qui n'est pas la même que l'existence de votre personnalité. Il existe dans votre vie intellectuelle. Et dans votre vie intellectuelle, l'intelligence a ce privilège de créer des réalités qui ont une existence très spéciale, intentionnelle. Vous n'avez jamais vu le concept se balader et dire au concept « Tu es mon fils ». Ça, il n'y a que Dieu qui fait ça. Le gosse, il est fils du père. Il est le gosse du père, il est fils du père. Parce qu'en Dieu, intelligence et vie ne fait qu'un. En vous, être et intelligence, c'est deux. Votre substance personnelle, c'est votre être. Votre vie, c'est votre être. Mais la vie et l'être en vous sont distincts. Alors, pour le concept, vous comprenez que le concept est singulier. Il fruit de mon intelligence. Singulier, mais sa signification est universelle. La signification est universelle, elle est universelle univoque, elle est universelle analogique. Ça dépend de sa capacité, de son être. Certains concepts sont univoques, d'autres concepts sont analogiques. Ça, c'est un fait. Vous constatez ça. Et vous essayez de voir le pourquoi. Et vous direz, le concept univoque, c'est parce que votre intelligence n'est pas suffisamment intelligente. Ça, je peux vous le dire, hein. Vous n'avez pas une intelligence aussi subtile que les anges et surtout aussi profonde que Dieu. Vous avez le dernier degré d'intelligence. On peut encore dire qu'il est intelligent. Vous êtes raisonnable. C'est le dernier degré d'intelligence. Alors j'envoie mon chapeau. Vous êtes raisonnable. La raison est univoque. Et elle n'est pas totalement univoque, puisque déjà dans l'univocité, vous avez genre, différents spécifiques, espèces, propriétés, accidents. Vous trouvez une diversité dans cette unité. Et comment ça se fait cette diversité? Ah, c'est que la réalité n'est pas univoque, elle existe. Et l'être n'est pas univoque, il est analogique. C'est en vous que je trouve le genre, nature humaine, nature animale. C'est pour ça que quand je dis... On devrait dire espèce de genre animal, non, on dit espèce d'animal. Mais on commet quelque chose de tout à fait anormal. Quelque chose qui est générique, vous l'appelez espèce. C'est pour ça que c'est la pire des injures. Tu vois, quand je dis espèce d'animal, ça veut dire que le genre animal a tout pris en vous. Alors, vous êtes une espèce animale. Et c'est l'affront le plus grand qui dira quelqu'un espèce animale. Ça veut dire que l'intelligence n'a pas poussé. Il n'est pas encore éveillé à l'intelligence. Notre intelligence, le dernier degré d'intelligence, c'est une raison. Elle est rationnelle. Elle connaît par genre et différences spécifiques. Elle est toute fière de la définition. Mais la définition, c'est triste. Dernier degré d'intelligence. Dernier degré d'intelligence. Premier degré de la logique. vous définissez, vous êtes au degré de la raison. Vous êtes au degré du genre, des différences spécifiques de l'espèce. Ça, ça se retrouve dans tous les articles de journaux. Vous pouvez lire un article de journal en cherchant le genre, différences spécifiques, espèce. Ça existe forcément. Dernier degré d'intelligence, la raison. Mais puisque c'est le dernier degré d'intelligence, c'est quand même l'intelligence. Il y a en nous la raison, mais il y a l'intelligence. Alors, l'intelligence s'éveille dans une intelligence rationnelle. Il y a toujours un vieux souvenir, qui est toujours actuel, un vieux souvenir de la raison. Et les réclamations de la raison. Je distingue en moi ma manière de connaître raisonnable et ce qu'il y a d'intelligence en moi. Dans ma raison est intelligente. Mais je suis intelligente rationnellement, c'est-à-dire deux derniers degrés d'intelligence. Qui a besoin d'une canne pour marcher. La logique, c'est une canne. La logique, c'est l'art sur ma vie intellectuelle. Elle a besoin d'être soutenue par une méthode. La logique, c'est la méthode. Alors, quand on dit que la méthode remplace l'objet, c'est terrible. Ça veut dire que je raisonne en me repliant sur moi-même et que je suis incapable d'atteindre l'autre. L'autre, c'est l'objet. Vous voyez ? Et les modernes disent toujours que la méthode est indispensable. Quand des étudiants commencent à fréquenter l'université de Lyon, au point de vue intellectuel, premier défaut, manquement de méthode. On ne dit pas manquement d'intelligence, manquement de méthode. Ah, il faut les méthodes, oui. Le monde d'aujourd'hui réclame la méthode, prenant la méthode qu'ils veulent. Ça ne me gêne pas, mais restons intelligents. L'intelligence, elle s'amuse de la méthode. Elle sait que la méthode, c'est humain. C'est utile pour mon intelligence, c'est la canne d'une pauvre intelligence qui a de la peine de marcher toute seule. Alors elle a une méthode. Et c'est vrai, il ne faut pas être très intelligent pour avoir une méthode. Mais il faut en avoir. Parce que si vous n'avez pas de méthode, vous ne passerez pas. Parce que celui qui corrigera la copie ne sera pas suffisamment intelligent pour vous comprendre que vous êtes au-dessus de la méthode. Alors il croit que vous êtes en dessous de la méthode. L'intelligence, elle connaît la réalité. Et la méthode, c'est dans mon intelligence. Ça me revient. L'intelligence connaît elle connaît par elle-même et elle s'appuie sur une méthode pour que ce soit bien réglé, pour que ce soit propre, que ce soit plus communicable. Mais j'ai vu la transformation qui se faisait dans le Valais, en Suisse. Il y avait des chutes d'eau. C'était beau à voir. C'était beau à voir l'eau qui dégringole de 40 mètres, 50 mètres, 100 mètres. ça défend. Et au bout d'un certain temps, tout ça en tuyau. La méthode, le tuyau, la canalisation permet d'utiliser les chutes d'eau. D'énormes. Parce que les chutes d'eau, c'est précieux. On en peut faire marcher des usines à électricité. Des chutes d'eau. Mais avoir, ça n'a plus aucun intérêt. Alors, le tuyau, c'est la méthode, oui. Vous pouvez utiliser votre intelligence par la logique. Vous utilisez votre intelligence. C'est très vrai. Alors, c'est très précieux. Vous l'utilisez et vous lui permettez de communiquer avec les autres. La chute d'eau, on ne l'utilisait pas. On la regardait. Parce qu'on ne se mettait pas en dessous. Donc, on la regardait. Et on était suffisamment loin pour ne pas recevoir les éclaboussures. Tandis que le tuyau, vous l'utilisez. C'est un progrès énorme de passer de la contemplation à l'utilisation. C'est le progrès de l'humanité, ça. On passe de la contemplation, de regarder la nature, ce bout, et puis l'utilisation. C'est curieux comme l'homme est attaché à sa raison. C'est son bien. Et c'est vrai, c'est son bien. Puisque l'animal ne raisonne pas, donc il est tranquille. Et c'est lui qui raisonne. Et il voudrait que Dieu soit comme lui. Non. Dieu est source de l'intelligence. Et source d'une intelligence raisonnable. Oui. La raison, c'est une intelligence raisonnable. C'est une petite intelligence. C'est vrai. Il y a une intelligence qui a besoin d'une méthode, qui a besoin d'une canne pour se tenir proprement. Elle n'est pas suffisamment forte par elle-même pour dire adieu à la méthode. Hein? J'en fais la caricature, si vous voulez, des méthodes. Mais c'est important de voir ce que c'est. La méthode est le fruit de l'homme, tandis que l'objet est le fruit de Dieu. C'est la réalité. C'est la cascade. Vous voyez, le jour où les chutes du Niagara seront canalisées, il n'y aura plus les chutes du Niagara. Et les chutes de Niagara sont belles à voir. C'est des très belles chutes. Alors, donc vous voyez comment le concept est singulier, mais il a une nature qui n'est pas l'être propre qui est intentionnel dans l'esprit. Et il a une signification universelle. Parce qu'il est le fruit d'une abstraction. L'image est singulière et l'image contient la nature. Elle qui est universelle. Vous nous avez dit que l'appréhension avait à voir avec l'universel. Oui, que l'appréhension, sa première connaissance abstraite, c'est la connaissance universelle, fruit d'une connaissance abstraite. Vous passez du singulier, de la signification, à l'universel, de papa à homme. En quoi l'appréhension faire telle de l'induction. Au point de vue de la signification, c'est différent. Oui. Grâce au concept, vous avez une signification universelle, univoque. D'abord univoque, elle peut être analogique. Mais elle est d'abord univoque. Elle relève de la raison. Elle me permet de définir. Alors, c'est l'appréhension qui s'assimile ce qu'elle peut assimiler de la réalité, sa quidité. Et cette quidité assimilée dans ma raison est universelle. Donc, il y a un lien direct entre l'appréhension qui assimile ce qu'elle peut assimiler et l'universel. Vous assimilez dans papa homme, papa est inassimilable. Vous ne connaissez qu'un singulier. Donc vous le connaissez par le jugement qui touche le singulier. Mais l'appréhension abstrait la nature, qui, elle, peut être saisie comme un fruit. Donc, jugement et appréhension sont les deux actes de l'intelligence. L'appréhension saisit la nature, la quidité. Le jugement adhère au singulier qui existe. C'est pour cela que la fameuse opposition scolastique entre le thomisme et les scotistes, on disait en scolastique, hein, on disait, le thomiste atteint d'abord l'universel. Les scotistes atteignent d'abord le singulier. Alors j'avais envie de dire, moi je suis thomiste et scotiste, j'atteins l'universel et j'atteins le singulier. Qu'est-ce que vous atteignez d'abord, en premier lieu? Selon l'ordre génétique, c'est le singulier. C'est papa. C'est ce que Don Scott saisit, c'est papa. Et ça, on les invente. J'atteins d'abord papa avant d'atteindre homme. Et quand je dis que les thomistes atteignent d'abord l'universel, c'est faux. Ils atteignent d'abord le singulier aussi. Par le singulier. Je connais le singulier, par l'expérience. Et du singulier, j'extrais. Il y a une abstraction. J'extrais homme. La nature. Et donc, j'atteins le singulier pour atteindre l'universel. Et ayant atteint l'universel, je retourne au singulier. Vous voyez ? Donc, c'était une fausse dispute. Il fallait tout simplement comprendre que d'abord, mon intelligence expérimente le singulier. Et mon intelligence expérimentant plusieurs singuliers de même nature, extrait cette nature. Je connais d'abord papa. Quand je connais plusieurs papas, je vois quelque chose de commun. Ils sont hommes, c'est l'homme. De ce singulier, j'extrais homme par l'abstraction. Et je ne demeure jamais dans l'abstraction. Je reviens au singulier, l'expérience. Et en disant « papa existe », je dis en même temps, l'homme existe en papa. La nature humaine existe dans le singulier. Donc, vous avez dit que l'appréhension avait à voir avec l'universel, c'est sûr. En quoi l'appréhension diffère-t-elle de l'induction ? L'appréhension, c'est assimiler pour soi. L'induction, c'est chercher le principe, ce qui est premier. Toute induction, c'est une méthode de travail. Mais une méthode naturelle. Hein. Vous induisez. Vous passez de papa à homme. C'est la première induction. Passer de papa à homme. Donc, cette induction, elle est abstraction. Pour qu'il y ait induction, il faut qu'il y ait une abstraction. Toute induction implique des abstractions. Mais l'induction est beaucoup plus riche. Je passe du singulier à l'universel. Mais attention, ce n'est pas l'universel univoque, c'est un principe. Tout principe est universel. Mais un principe est universel analogiquement. Alors vous voyez là, deux abstractions, une abstraction naturelle, inconsciente. Vous ne savez pas quand vous êtes passé de papa à homme. Vous ne savez pas. Pas la peine de chercher, vous ne trouverez jamais. Et puis, il y a une abstraction tout à fait différente quand on passe du singulier à la nature, à la substance, à l'âme. Vous découvrez un principe. Et quand vous avez découvert un principe, vous voyez que ce principe se retrouve dans une série de cas singuliers. Mais il se retrouve analogiquement. Il ne se retrouve pas univoquement. Il se retrouve analogiquement. C'est-à-dire, quand je dis qu'il se retrouve analogiquement, c'est-à-dire qu'il se retrouve quelque chose de commun. Mais il se retrouve selon des modalités différentes. Papa est intelligent. Et je vois un autre homme qui est intelligent. Mais il a une autre intelligence. Vous êtes tous intelligents, mais vous avez tous votre modalité particulière d'être intelligent. Et en même temps, vous êtes tous intelligents, tous vous abstrayez, parce que il y a des êtres, des hommes, qui, en raison de la maladie, ne peuvent plus abstraire. Reste toujours singulier. Il répète les mots comme le perroquet, il répète. Et il n'arrive pas à les relier, la relation. Donc, vous voyez, au point de vue critique, c'est très important de saisir ces deux types d'abstraction. L'abstraction universelle et l'abstraction formelle. c'est constamment dans saint Thomas. Mais saint Thomas n'explique pas. Il le donne. Alors c'est important, si on veut savoir ce que c'est, il y a une abstraction qui conduit à l'universel, tout simplement, univoque, et l'autre abstraction qui conduit, l'autre abstraction formelle, qui est une induction, où je passe des réalités singulières à leurs principes. Nous avons fait l'induction de la substance, nous avons fait l'induction de l'acte. Cette induction était le passage de réalité singulière à une réalité universelle, un principe. Tout principe est universel. La loi est un principe et est universelle. Je ne fais jamais de loi pour un seul individu. C'est pas une loi. On peut faire une loi à l'égard d'une fonction qu'on a. Alors tous les hommes qui ont cette fonction devront faire ça. Et vous avez une loi. La loi est toujours universelle. Et la personne est toujours singulière. Et la personne est porteuse de loi. Pour avoir une loi, il faut une abstraction de type formel particulier. Et nécessairement, cet universel est différent de l'autre universel univoque. Il est analogique. C'est-à-dire que le principe contient en lui-même différentes modalités de réalisation. Alors cela réalise la question qu'il y avait, mais je reviendrai là-dessus. C'est la question du TST et du Pose.